Bonjour, bonjour, je m'appelle Sabine Padlou et vous êtes en train d'écouter le podcast hebdomadaire du Bonheur des Arts, la plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et du luxe. Dans cette série, je vous parle du rôle de l'art dans la société. Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que nous sommes confinés. Et pour rappel, ce podcast est issu d'une réflexion sur notre attachement pour l'art et son origine. Nous parcourons ainsi les époques afin de voir comment tout cela a évolué. Cette série a été nourrie de la lecture de l'ouvrage « L'esthétisation du monde, vivre à l'âge du capitalisme artiste » coécrit par Gilles Lipovetsky et Jean Seroy en 2013. Nous avons vu le premier âge, l'artialisation rituelle, puis le deuxième âge, l'esthétisation aristocratique. Et nous avons entamé notre découverte du troisième âge, l'esthétisation moderne du monde. Nous allons poursuivre notre analyse de cet âge qui a beaucoup de choses à nous dire. Bienvenue dans ce cinquième épisode de l'Appel de l'art. Commençons par un petit résumé des âges précédents. L'artialisation rituelle s'épanouit de la préhistoire au Moyen-Âge. La majorité des productions artistiques ont été fabriquées à plusieurs mains pour les rites sacrés et divins mis en place par les peuples. Ces œuvres sont donc censées être des réceptacles à la divinité ou à l'ancêtre. Le concept d'artiste apparaît entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est le début du deuxième âge, celui de l'esthétisation aristocratique. Jusqu'à la Révolution française, l'art est utile aux princes. Les souverains ont besoin de s'affirmer socialement et de mettre en scène leur pouvoir. Pour cela, ils invitent les artistes à leur cour, car l'homme est alors au centre des attentions. Mais peu à peu, un autre acteur apparaît, et il va progressivement remplacer l'homme au centre des attentions. L'objet. La société de consommation s'épanouit au cours des 18e et 19e siècles, avant de s'affirmer après la Seconde Guerre mondiale. De l'art pour les princes, nous sommes passés à l'art pour l'art. Cet art pour l'art n'appartient pas uniquement à l'élite. Au cours des 19e et 20e siècles, l'art s'adresse désormais à tous. Et cela tombe bien, car nous avons de quoi fabriquer en masse. L'ère des machines triomphe. Mais vous me direz que c'est bizarre de parler ici de production de masse, de machines, alors que nous parlons d'art. Cet âge intitulé l'esthétisation moderne du monde évoque la modernité, donc il n'y a pas d'incompatibilité. Mais quid de l'association esthétique et machine? Nous avons vu samedi dernier la complexification du secteur artistique. Les artistes sont de plus en plus émancipés, mais ils sont dépendants d'un système puissant, celui des beaux-arts. Suivre les règles permet d'avoir une carrière prolifique, pour peu qu'on soit doué. Ne pas suivre les règles implique de devoir se débrouiller pour vivre de son art. Certains artistes créent en totale liberté, quitte à souffrir de la faim ou mourir dans la plus grande pauvreté. C'est arrivé à plusieurs grands noms du monde des arts comme Courbet, Van Gogh ou Erik Satie. D'autres s'adaptent et s'épanouissent dans d'autres secteurs, notamment celui que l'on nomme art industriel. Cela peut paraître paradoxal. Mais cette période se complexifie et se constitue de concepts antagonistes propres à l'Occident. On oppose et on associe aussi l'art avec le commerce, avec l'industrie, avec le divertissement. On oppose aussi l'avant-garde et l'institution, l'art d'élite et l'art pour la masse. On approche peu à peu de notre âge, le monde de l'art évolue. Et son moyen de diffusion. L'art s'affirme comme objet. On peut désormais trouver de l'objet artistique dans les grands magasins. L'art s'affirme aussi comme objet de collection. Les collectionneurs et les galeristes deviennent des acteurs incontournables de la sphère artistique. L'art se situe désormais dans un univers industriel et commercial. L'art doit répondre à deux impératifs propres à cette période, sa modernité et sa démocratisation. Bienvenue dans la société de consommation de masse. Le monde a changé, mais il a évolué en douceur. Cette société de consommation de masse se développe dans un contexte favorable. La population est de plus en plus nombreuse et les ménages occidentaux voient leur salaire augmenter. Pour celles et ceux qui résident dans les grandes villes, Il y a la possibilité d'avoir accès de plus en plus facilement à l'art et à la culture. Les biens matériels et symboliques prolifèrent. On peut acheter des objets de demi-luxe dans les grands magasins comme de la belle céramique, ou on peut se rendre au cinéma ou au musée. L'art se retrouve aussi dans les jardins et les parcs publics. L'art doit être accessible à toutes et à tous parce qu'il doit élever l'esprit. Nous assistons ainsi à la mise en place d'une culture esthétique de masse. Cette culture a ses propres valeurs telles que l'hédonisme, le tourisme, le ludisme ou les modes. Et elle implique la fabrication de tous ces biens matériels et symboliques nécessaires à l'esthétisation moderne du monde. Dans cet âge, l'art à travers le concept du beau devient le nouveau guide du peuple. C'est comme si l'art s'était substitué à la religion. Ou du moins, l'art est devenu un puissant pouvoir spirituel laïque. Ce beau est un idéal à atteindre pour tous. L'art s'est sacralisé. Et il faut reconnaître que le musée a accentué cette sacralisation. N'avez-vous jamais eu cette impression qu'une œuvre exposée en musée avait ce petit quelque chose de sacré? Ce phénomène est amplifié par le fait que nous n'avons pas le droit de toucher une œuvre pour des raisons de conservation. Le musée a la grande mission de préservation des trésors de l'humanité pour les générations actuelles et celles à venir. Les objets en musée ont été choisis pour représenter notre histoire et notre savoir-faire. En France, la loi protège les collections muséales. Les œuvres sont inaliénables. Ce qui entre au musée reste au musée. Les musées américains, par exemple, peuvent vendre des œuvres en cas de problème financier. En France, cela est impossible et je dirais à titre personnel que tant mieux. Je préfère que les œuvres restent au musée. Même si cela pose parfois la question de la place pour stocker toutes les œuvres. Car oui, les musées ne vous montrent pas tout. J'ai eu le plaisir de visiter quelques réserves de musées, dont celle du musée d'Orsay. Et quel bonheur, quelle émotion quand j'ai parcouru cette caverne d'Ali Baba, je vous laisse imaginer. Tous les objets situés en réserve et ceux exposés dans les salles font partie d'un ensemble, d'un espace sacro-saint. Les œuvres d'art sont devenues immortelles dans ces lieux. Nous faisons comme dans les anciens temps. Nous avons réuni les trésors dans un espace précis. Sauf que désormais, cet espace est accessible, et heureusement, au plus grand nombre. Tout le monde est invité à s'élever face à ces nouveaux objets de culte. Le musée est devenu un espace sacré, avec ses règles qui s'apparentent à des rites. Ne pas toucher, ne pas parler fort, suivre un parcours précis, regarder les œuvres, les admirer, percer le mystère esthétique et s'élever. L'esthétique semble s'être ainsi substituée à la religion. Nous avons toujours eu besoin de croire en quelque chose, notamment parce que cela peut donner un sens à notre vie. Comme je vous le disais, cet âge est dynamisé par des oppositions. L'aspect commercial et spirituel n'est pas un souci. C'est d'ailleurs ce qui a créé l'âge actuel. La semaine prochaine, je vous présenterai d'ailleurs un objet rassemblant ces problématiques que je trouve passionnant par son aspect faussement simple. Je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Merci d'avoir suivi ce 5e épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et à découvrir notre site internet bonheurdesarts.com. Prenez soin de vous et à samedi prochain pour le 6e épisode de L'Appel de l'Art.